Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présent à la conférence de Carole Reynaud-Paligo. Si vous avez assisté aux conférences du TAP, avec un titre bizarre, grépouilleux, vous avez pu entendre Madame Reynaud-Paligo qui a parlé 20 minutes et qui va parler une heure ce soir. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'être là. Vous étiez déjà venu chez nous, mais ce n'était pas sur le même sujet. Donc on était très intéressés à vous entendre sur le sujet sur lequel vous travaillez, l'anthropologie raciale. Donc je vais vous présenter. Vous êtes docteur habilité à diriger des recherches depuis 2005. Vous êtes enseignante à l'Université de New York à Paris, spécialiste de l'histoire des intellectuels au XXe siècle et chercheur associé au Centre d'histoire du XIXe siècle de l'Université Paris 1 et chercheur à l'Institut historique allemand de Paris. Et vos thèmes de recherche portent sur l'histoire des intellectuels au XXe siècle, l'histoire de représentation raciale 1860-1960 et sur l'histoire comparée des pensées raciales au sein des sociétés contemporaines. Donc vous avez écrit cet ouvrage que je conseille au public, La République raciale aux éditions du PUF 1860-1930, et le titre de votre intervention ce soir est Institutionnalisation et internationalisation d'une discipline anthropologie raciale 1850-1840. Donc Madame Reynaud-Paligo va vous expliquer ce que signifie ce terme anthropologie raciale. Merci d'être avec nous encore une fois à Poitiers, parce que vous y étiez il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup.
Merci à vous pour cette invitation. Ça va? Le son est bon? Bien, alors je vais évoquer donc un peu plus longuement que ce que j'avais fait il y a quelques semaines. Ce qu'on peut appeler une culture raciale qui s'est installée, enracinée dans en France et plus largement dans l'espace occidental au XIXe siècle et qui a laissé encore des traces, des imprégnations assez profondes jusqu'aux premières décennies du XXe siècle, en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on reparlera plus précisément de la fin de l'histoire un peu plus tard. Donc, une culture raciale que je vais évoquer et en commençant par montrer dans quel milieu cette culture a pris naissance, et donc dans le milieu scientifique au XIXe siècle. Je vais retracer brièvement l'histoire de cette science des races qui a émergé donc au début du XIXe siècle, mais qui a connu un moment important lorsqu'elle s'est institutionnalisée, c'est-à-dire lorsqu'elle est devenue une véritable discipline reconnue, enseignée, qui a diffusé ses enseignements un peu partout dans la société française. Et puis j'évoquerai donc comment cette culture raciale, diffusée donc par cette science, s'est largement propagée dans la société française, par quels moyens et quelles ont été les conséquences politiques de cette installation, de cette vision du monde, de cette vision raciale du monde. Alors, il faut repartir donc un petit peu quelques décennies avant le XIXe siècle, quand la notion de race apparaît donc dans un champ scientifique bien particulier. C'est le milieu des naturalistes qui, depuis quelques décennies, sont dans une démarche qu'on peut qualifier de classificatoire, c'est-à-dire qu'ils ont l'ambition de classer, d'ordonner l'ordre du monde. Et ils commencent par le règne animal ou même par la botanique, hein, c'est les entreprises de classification des plantes qui sont impulsées par Linné. Puis des plantes, on passe au monde animal et assez vite, dans ce monde animal, on va essayer de trouver la place de l'homme. Et c'est là que l'usage du terme de race donc se diffuse et devient un terme scientifique. Donc aux alentours de 1740, on trouve les premiers essais de classification raciale, les grandes catégories. Et ensuite, pendant donc la fin du 18e, du 19e et pendant tout le 19e siècle, ça va être la grande aventure scientifique du moment, comment appréhender la diversité humaine sous l'angle de la race, hein, avec cette nouvelle notion scientifique qui a émergé. Alors, donc concrètement, ces scientifiques, eh bien, ils commencent par observer les squelettes, les comparer, donc les squelettes humains, les comparer avec ceux du monde animal, y trouver des ressemblances, et on apparaît une nouvelle technique qui s'appelle l'anthropométrie, qui appréhende donc ce corps humain grâce à toute une série d'outils qui ambitionnent de mesurer de manière très précise, hein, de donner des mensurations du corps humain, et puis de classer, classer les êtres vivants. Voilà. Alors, au sein du monde animal, l'homme va trouver sa place, l'aboutissement de cet ordonnancement du monde animal. Et puis, la diversité humaine va aussi faire l'objet d'une tentative classificatoire. Donc, on va observer les différentes populations du monde et essayer donc d'utiliser ce concept de race pour faire apparaître un classement. Alors, il s'agit donc de mesurer les corps, les squelettes, les crânes. Ça donne naissance, donc l'anthropométrie donne naissance aussi à une branche plus spécialisée qu'on appelle la craniométrie, qui donc étudie le crâne avec une question centrale, sa forme, mais aussi sa capacité, mesurer la capacité crânienne ou encore le poids du cerveau. Alors, des observations sur les squelettes, bien sûr, ça va être le grand moment où on fait sortir aussi les squelettes de terre, parce qu'on se penche sur l'ancienneté de l'homme, et puis on observe aussi les squelettes plus récents, et également les corps humains, les individus vivants, les êtres vivants, et là on s'intéresse donc à la couleur de leur peau, à la couleur de leurs cheveux, à la couleur de leurs yeux, à leur taille, etc. Voilà, donc ça commence à occuper les savants, j'allais dire même l'avant-garde scientifique de l'époque. Sous l'égide de l'un d'entre eux, donc Paul Broca, on va voir dans la seconde moitié du 19e siècle cette science devenir, enfin prendre sa place au sein du paysage intellectuel français, devenir une véritable discipline, grâce donc à d'abord la création d'une société d'anthropologie de Paris, en 1859. Alors, je sorte déjà du cadre hexagonal pour dire que cette spécificité, ce n'est pas une spécificité française, cette science des races, elle émerge à peu près au même moment dans tous les pays européens. 1859, c'est la première création à Paris, donc les Français sont un petit peu ceux qui impulsent cette science, mais on voit toutes les capitales européennes ou les grandes villes occidentales même, avoir leur société d'anthropologie dans les années 1860-70 jusqu'à la fin du siècle, et même pour les plus tardifs encore au début du XXe siècle. Voilà, donc création d'une société savante, hein, qui impulse cette nouvelle science, création de lieux d'enseignement, ça c'est évidemment déterminant pour la diffusion d'une science, il faut qu'elle soit enseignée, avec la création en 1876, toujours à Paris, donc de l'école d'anthropologie de Paris. On voit apparaître des cours d'anthropologie au Muséum d'histoire naturelle également, dans certaines universités, dans les universités des sciences. Donc là aussi, même mouvement dans tout l'espace occidental, et même ça déborde l'espace occidental, puisqu'on trouve des sociétés d'anthropologie ou des écoles jusqu'au Japon, dans les années 1880, ou aussi en Amérique du Sud, en Inde, impulsée évidemment par la colonisation britannique. Donc vous voyez la diffusion, hein, et l'ampleur que prend cette science assez rapidement. Alors on mesure, on peut la suivre, cette science a sa production scientifique, et on s'aperçoit, donc je reviens à l'exemple français, que dans les années, à partir des années 1860 jusqu'à la fin du siècle, il y a une profusion de publications, d'ouvrages scientifiques sur le thème des races humaines, qui émanent donc de scientifiques qui ont une position institutionnelle tout à fait forte. Donc des ouvrages, des revues scientifiques, plusieurs revues ont pour objectif rassembler et de mettre, donner à voir donc cette recherche qui s'effectue sur les races humaines. Et puis toute une série d'ouvrages de vulgarisation qui vont donc vers le grand public. Alors on peut retrouver notamment des articles de dictionnaire, si vous ouvrez le dictionnaire de l'époque, le Larousse de l'époque, des années 1880, eh bien, vous trouvez un article « Race humaine » qui donne une synthèse des travaux scientifiques qui ont eu lieu sur ces races. Et puis, la presse, évidemment, évoque largement la publication de ces ouvrages, et on en trouve aussi des traces dans les manuels scolaires qui présentent aux enfants la diversité humaine sous l'angle racial, pourrait-on dire. Voilà. Alors, pour vous donner un petit exemple de cette production scientifique, je vous ai mis donc quelques photos d'un manuel qui était très, très réputé à l'époque, donc qui était écrit par Paul Topinard, qui s'appelle tout simplement L'Anthropologie, qui a connu plusieurs éditions, rééditions, qui a été traduit à l'étranger. Donc ça montre l'importance du manuel et donc de la science. Voilà, donc la base de l'enseignement repose sur le corps humain, l'observation du corps humain, et puis le crâne qui tient une place de prédilection, avec toute une série de mesures assez élaborées de la forme du crâne, calcul d'angle. Donc, qui dit mesure dit instrument de mesure. Paul Broca va mettre au point toute une série d'instruments qui vont être diffusés d'ailleurs dans toute l'Europe, parce que l'ambition de cette science, elle est très vaste, c'est toute la diversité humaine qu'il faut appréhender. Donc évidemment, il faut que toute la communauté internationale se mobilise pour faire des mesures sur les populations de toute la planète. Et il faut se mettre d'accord sur avoir les mêmes outils, faire les mêmes mesures. Donc voilà, il y a toute une vie scientifique qui se met en place avec des congrès internationaux, où ces savants se rassemblent, discutent de leur recherche, des mensurations, etc. Alors, donc, le crâne et bien sûr le cerveau. Donc, on essaye de peser les cerveaux. C'est extrêmement difficile. On pense au départ, dans les premières recherches, que le poids du cerveau est quelque chose de très important et qu'il détermine notamment l'intelligence. Donc il va y avoir pas mal de théories qui vont donc et de mesures qui vont donc dire que les cerveaux des femmes notamment et des populations dites primitives sont plus légers que les autres. Puis il va y avoir des mesures contradictoires. L'une qui va le plus remettre en cause ce genre d'explication assez simpliste, ça va être de découvrir que des grands savants ont eu des cerveaux tout petits. Donc là, on va commencer à mettre un petit peu en doute. Et puis, donc on va laisser tomber un petit peu le poids du cerveau et s'intéresser à la forme du cerveau, à la forme des circonvolutions du cerveau. Et là, on va voir d'autres théories sur l'infériorité de ces races dites primitives qui viendraient d'une configuration du cerveau différente. Alors évidemment, énormément de mensurations dans tous les sens. Bon, on ne voit pas très bien, mais voilà quelques exemples d'outils mis au point. Donc, voilà un petit aperçu du manuel de Paul Topinard. Alors, j'ai déjà évoqué qu'on s'intéresse avant tout au caractère physique des êtres humains, mais qu'en même temps, eh bien, on véhicule une certaine vision du monde. Hein, j'ai prononcé déjà le terme de race inférieure, primitive. Et donc, dans toute cette production scientifique, on va avoir une vision du monde hiérarchisée, c'est-à-dire qu'on ne classe pas simplement, le but n'est pas seulement de classer, mais on hiérarchise aussi, et on parle de race inférieure, de race intermédiaire, de race supérieure. Donc une vision du monde qu'on peut qualifier d'inégalitaire, de hiérarchisante. J'utilise pas le terme de raciste parce que j'y reviendrai un peu plus longuement, il est anachronique en tous les cas pour cette première période des années de la fin du 19e siècle, il n'existe pas, et puis quand il va apparaître, j'en reparlerai un peu plus tard, il aura un autre sens. Donc je préfère parler de vision du monde inégalitaire et hiérarchisante. Alors comment se base cette hiérarchie ? Eh bien d'abord sur les caractères physiques. Certaines races ont, disent ces savants, des caractères physiques qui sont plus proches de l'animalité. Ce seraient donc des races qui seraient restées à un stade moins développé. Et là-dessus vient donc se greffer les théories qui apparaissent et se diffusent à la même époque. 1859, c'est l'ouvrage de Darwin qui paraît sur l'origine des espèces. Un petit peu avant, c'est les théories de Lamarck qui donc est un des premiers à affirmer que l'homme n'a pas été créé par Dieu, mais qu'il est issu d'une série de transformations des êtres vivants, du plus simple au plus complexe. Donc évidemment, ces savants, j'ai oublié de mentionner qu'ils sont pour la plupart de formation médicale, ils ont fait des études de médecine, d'anatomie, ce qui leur a donné l'envie de s'intéresser au corps, au squelette, de mesurer. Et Paul Broca, par exemple, Paul Broca, c'est l'initiateur de cette science en France, est un médecin qui a fait une brillante carrière de chirurgien des hôpitaux avant de se passionner pour les recherches anthropométriques et de créer la société d'anthropologie, l'école d'anthropologie, les revues scientifiques, etc. Donc d'abord une hiérarchie qui se base sur les caractères physiques et plus proche de l'animalité, ça veut dire avant tout, très directement, plus proche du singe, notamment des grands singes, des anthropoïdes. Et c'est là que ces savants qui vont adopter les thèses transformistes, on dit celle de Lamarck, on parle du transformisme, puisque les êtres sont issus d'une série de transformations. Puis après, avec Darwin, on va parler d'évolutionnisme. Donc ces savants adoptent ces thèses très vite et vont utiliser ces populations dites primitives pour démontrer, conforter les thèses de Lamarck en disant, eh bien, vous voyez, on a bien trouvé le chaînon manquant, ces populations africaines ont des valeurs, quand on mesure leur squelette, ont des styles, des valeurs intermédiaires entre celles des grands singes et celles de l'homme blanc. Voilà. Donc on va avoir toute une série d'ouvrages font état de ces recherches, de ces mensurations, qui donnent les mensurations précises qu'ils ont trouvées. On va avoir notamment, il faut citer Abel Ovolac, qui va se spécialiser un petit peu sur cette question-là et publier deux ou trois ouvrages pour montrer le caractère intermédiaire des populations africaines ou mélanésiennes dans cette chaîne de l'évolution des êtres. Voilà, donc caractère physique, mais aussi hiérarchie dans les caractères qu'ils appellent intellectuels et moraux. C'est-à-dire que chaque race va se définir avant tout par ses caractéristiques physiques, que j'ai énumérées tout à l'heure, mais en même temps, chaque race possède, disent-ils, des caractéristiques intellectuelles, morales, psychologiques, qui sont inhérentes à la race et qui se transmettent de génération en génération. Bon, sans aller plus loin dans la démonstration, parce qu'on est à une période où les lois de Mendel n'ont pas été encore diffusées. Mais il y a quand même cette idée d'hérédité, d'hérédité donc des caractères physiques, hein, la couleur des yeux, la forme de la tête se transmet, mais aussi une hérédité raciale, des caractères intellectuels et moraux des différentes races. Alors là, bon, je ne vous étonnerai pas trop en disant que, évidemment, les races dites primitives sont dotées des vertus les moins nobles, des aptitudes les moins nobles. On les juge moins intelligentes, moins dynamiques. Donc on parle beaucoup de stéréotypes comme la paresse, comme le faible dynamisme. Et au sommet de l'échelle, donc la race blanche, eh bien, elle est parée de toutes les vertus. Voilà. Bon, voilà donc comment cette vision du monde s'impose. Alors, elle n'est pas nouvelle, c'est-à-dire des idées inégalitaires, il y en avait déjà avant, mais la différence, me semble-t-il, et qui est d'importance, c'est que là, ça vient d'un milieu scientifique. Donc, c'est la science qui porte cette vision du monde. Et à un moment, à la fin du 19e siècle, où les préceptes religieux, la religion, est contestée, perd un peu de son importance comme explication du monde, et que au contraire la science s'impose, eh bien le fait qu'elle ait véhiculé cette vision du monde, eh bien ça, me semble-t-il, considérablement renforcé ce type de représentation. Alors, autre point important pour essayer de mesurer l'importance de cette science, c'est ses liens avec les milieux politiques. Cette science des races, notamment en France, elle s'est développée, elle a pris son essor dans un milieu bien spécifique, c'est le milieu des républicains. C'est donc le moment où la Troisième République s'installe. Bon, ça commence un petit peu avant, dans les années 1860, mais si on suit l'évolution de ces savants et leur activité dans les années 70 et 80 et au-delà, eh bien on s'aperçoit que ce sont de fervents républicains. Certains sont des militants républicains, comme par exemple Abel Wolak, que j'ai cité tout à l'heure, qui est député radical socialiste, ou autre personnage important dont vous avez peut-être entendu parler, Gabriel de Mortillet, qui impulse en France une autre science qui s'appelle la préhistoire, qui lui est un donc fervent anticlérical, républicain, progressiste. Voilà, donc là on est dans les milieux de gauche, hein, plutôt du centre ou de gauche de l'époque, pour les situer. Et ça me semble important parce que par rapport à l'autre figure qu'on met en avant et qu'on met en avant ici à Poitiers, qui est Vacher de la Pouge, on est dans un autre univers avec la Vacher de la Pouge, parce qu'on est chez un savant qui est plutôt marginal et qui a des idées politiques à l'opposé, hein, qui on dirait d'extrême droite aujourd'hui, extrêmement conservateur, etc. Là, on est dans la science alliée à la République. Hein. On a les idéaux de la République et une science inégalitaire, hiérarchisante, et tout ça fonctionne bien puisque ces savants partagent ces opinions républicaines et leur vision du monde inégalitaire. Autre chose importante, c'est que cette science est soutenue dès sa création par la République, par cette Troisième République, puisque elle est subventionnée par l'école d'anthropologie, la société d'anthropologie sont subventionnées par les fonds publics. Et puis, lorsqu'on regarde qui a fait partie des comités de soutien lors de la création de l'école ou qui fait partie de la société d'anthropologie, eh bien, on retrouve les principaux républicains de l'époque. Les grands noms de la République sont là, passionnés par cette science. Ils apportent leur soutien, ils adhèrent à l'objectif de la science. Voilà, donc ça veut dire que cette vision raciste du monde, je l'utilise maintenant, eh bien, elle s'est installée au cœur de l'idéologie républicaine dans les années 1870, 80, 90, puisque c'est le grand moment de la science. Alors, pour vous donner aussi un petit exemple Un petit exemple du manuel de Topinard et de ce que disaient ces savants. Je vous ai montré quelques photos, mais je voudrais quand même lire un petit passage pour que vous imprégniez bien de ce qu'a été cette science, parce que c'est évidemment aujourd'hui ça, on en est loin. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut lire donc dans le manuel de Topinard. Il y a des races incontestablement plus intelligentes, plus civilisées que d'autres. Nous les disons supérieures. Par opposition, il y en a à l'autre extrémité de l'échelle qui sont inférieures. Les plus inférieures sont celles qui, par l'ensemble de leur caractère, le volume du cerveau, les proportions du corps, le prognatisme, l'angle facial, l'inclinaison du trou occipital, etc., sont plus rapprochées des animaux et en particulier des singes. Les plus supérieures, au contraire, sont celles qui s'en éloignent le plus. C'est ainsi que les races européennes sont, avec raison, considérées comme supérieures par rapport aux races nègres et à un moindre degré par rapport aux races jaunes. Voilà, donc Paul Topinard, 1881, professeur à l'école d'anthropologie de Paris, secrétaire général de la Société d'anthropologie, etc. Voilà, un petit passage qui résume bien sur quel registre on se situe. Et si on regarde un petit peu du côté de la vulgarisation, il faut mentionner donc j'ai évoqué tout à l'heure les manuels scolaires, cette science. Alors les manuels pour les petits-enfants, évidemment, sont très rudimentaires. On se contente de dire qu'il y a des races humaines, que les grandes classifications, c'est la race blanche, la race jaune, la race noire. Voilà ce qu'on présente rapidement. Mais après, quand on a des manuels d'un niveau un peu plus supérieur, on rentre un peu plus dans le détail. Et par exemple, je vous propose d'ouvrir celui de Paul Bert. Bon, Paul Bert, c'est que vous connaissez tous, puisque dans toutes les rues de France, il y a une rue Paul Bert. C'était un des fondateurs de la République, de la Troisième République, un proche de Jules Ferry, un opportuniste, donc cette gauche centriste de l'époque, et en même temps un grand savant. Il a fait des recherches en physiologie assez importantes et assez renommées. Il s'est intéressé à l'anthropologie, il a aussi participé à la Société d'anthropologie. Et il a un troisième volet qui est intéressant pour nous, parce je vais en reparler, c'est qu'il a été aussi gouverneur de l'Indochine. Donc on verra aussi les implications politiques de cette science en milieu colonial. Pour l'instant, donc, j'ouvre un des manuels de Paul Bert. Alors, on est dans les années 1880, mais ce manuel, un manuel de zoologie, il va être réédité pendant des décennies, jusque dans les années 1930. On peut lire, donc, en ouvrant l'ouvrage, je le cite, « Les nègres, peu intelligents, n'ont jamais bâti que des huttes, parfois réunies en assez grand nombre pour faire une ville. » Ils n'ont point d'industrie. La culture de la terre est chez eux au maximum de simplicité. Ce ne sont cependant pas les derniers des hommes. Il faut mettre après eux, comme intelligence, les petites races d'hommes qui habitent les régions les plus inaccessibles de l'Afrique. Bien au-dessus du nègre, nous élèverons l'homme à la peau jaunâtre. Il a fondé de grands empires, créé une civilisation fort avancée, mais tout cela semble tomber en décadence. Et un peu plus loin, la race intelligente entre toutes, celle qui envahit et tend à détruire ou subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons, c'est la race blanche. Voilà, donc un aperçu de ce que les écoliers pouvaient lire, apprendre. Et puis, je vais parler maintenant un petit peu des implications politiques de cette science. Puisque dans les derniers mots, là, on voit bien que cette supériorité de la race blanche, eh bien, lui donne le droit d'envahir, de détruire et de dominer le monde. Alors, en fait, ce qui me semble intéressant, c'est que cette notion de race, finalement, elle émane donc des milieux naturalistes. Elle a pour objectif de classer les hommes, mais elle aurait pu rester dans ce milieu-là, comme on classe les plantes, on classe les hommes. Alors qu'en fait, elle va très vite sortir de ce milieu et faire l'objet d'appropriation dans d'autres champs intellectuels. On va voir des historiens, des philosophes, des publicistes, donc je parle du début du 19e siècle, mais ça reste valable ensuite pour les journalistes de la fin du siècle, et bien des écrivains aussi, utiliser ce terme de race, hein, se l'approprier, et pour certains, en faire la clé d'explication de l'évolution des sociétés. Finalement, si voilà, tous les rapports entre les sociétés, donc les rapports de domination, les guerres, tout cela vient d'antagonismes raciaux, de compétition entre les races, et voilà, c'est, la notion de race devient une clé d'explication des sociétés humaines. Et ça s'opère très tôt, donc première décennie du 19e siècle, chez les historiens romantiques. Lorsqu'on ouvre les ouvrages de, par exemple, des frères Thierry, Amédée Thierry et Augustin Thierry, eh bien, on voit le premier, donc Amédée, qui fait de la race gauloise, qui fait un premier livre sur la race gauloise. Augustin Thierry, son frère, qui publie un ouvrage sur l'histoire de l'Angleterre et qui fait une lecture de cette histoire de l'Angleterre à travers avec un critère racial, c'est-à-dire qu'il oppose les Celtes aux Anglo-Saxons. Donc ça commence là, très tôt. Hein, on a vu que la notion de race elle avait émergé quelques décennies auparavant chez les naturalistes. Et puis, eh bien, tout au long du 19e siècle, on va trouver les plus grands penseurs, les grands philosophes, utiliser cette notion de race. Alors, on peut citer Renan, Taine. Taine est particulièrement intéressant. C'est lui qui dit que la race est une des clés de l'explication. Il va s'intéresser surtout, Taine, à l'histoire de la littérature. Mais là aussi, en lisant, en expliquant les particularités, les caractères littéraires de certains pays par la race des habitants. C'est très marqué aussi chez Renan, donc Renan, il est philologue, il s'intéresse aux textes, mais en même temps, il s'intéresse aux avancées de la science. Il suit de très près ce que font ces naturalistes et ces anthropologistes. Ça va donner chez Renan donc une grande opposition entre la race sémite et la race aryenne. Une opposition donc raciale avec chaque grande race a des caractéristiques physiques, mais aussi des caractéristiques intellectuelles, morales, selon Renan, qui se transmettent de génération en génération. Renan a une description particulièrement aussi intéressante sur la race noire qui est faite pour travailler la terre, donc qui est la race paysanne par excellence et qui doit le rester, la race jaune qui est plutôt une race d'ouvriers, hein, et puis la race blanche qui doit, elle, occuper les emplois, les fonctions intellectuelles. Voilà, alors j'ai donc essayé de mesurer comment cette science des races avait pu irriguer tous les champs intellectuels de l'époque, et en avançant dans le siècle, ça reste encore très présent à la fin du 19e siècle si on ouvre des ouvrages d'historiens, de géographes. On s'aperçoit qu'ils sont aussi imprégnés de cette vision du monde, qu'ils lisent l'histoire du monde ou la géographie du monde à travers ce facteur racial. Alors, pour prendre quelques exemples, lorsqu'on ouvre un ouvrage de Charles Seignebos, qui est un historien qui n'est peut-être pas connu pour vous, mais qui à l'époque était le grand historien de la Troisième République, qui a beaucoup écrit, il parle des recherches des anthropologistes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, anthropologistes, et il dit que ces recherches sont tout à fait intéressantes, qu'elles sont encore qu'à leur début, donc on est dans la première décennie du XXe siècle, même il publie dans les années 20 et au début des années 30, donc elles sont encore qu'à leur début, mais qu'elles nous apportent déjà beaucoup de choses. Et il reprend à son compte toutes ces recherches qui vont être menées par les anthropologistes sur les races européennes, des recherches qui montrent donc qu'il y a en gros trois grandes races en Europe. Au nord, ça fait donc trois bandeaux, d'est en ouest. Au premier bandeau, au nord, c'est la race nordique, que certains vont appeler la race aryenne, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, au milieu, la race alpine, donc c'est la race qui domine en France. Et puis au sud, la race méditerranéenne. Alors j'ai oublié de citer les caractéristiques physiques, notamment la forme du crâne. Donc pour la race nordique, ce sont des crânes dolichocéphales. Dolichocéphale, c'est le terme qui est employé pour caractériser des crânes qui sont plutôt de forme allongée. Donc les nordiques sont dolichocéphales, plutôt de grande taille, plutôt de cheveux clairs et d'yeux bleus. Ensuite, les alpins, ils sont de taille moyenne. Ils sont brachycéphales, donc là, leur crâne est plutôt rond, de forme ronde. Voilà, des yeux marrons, des cheveux châtains. Et puis, au sud, donc la race méditerranéenne, qui, elle, est aussi des yeux marrons, les cheveux bruns, mais qui a un crâne à nouveau dolichocéphale. Voilà, c'est un petit peu un consensus de tous les anthropologistes de l'Europe pour dire qu'il y a ces trois grandes races. Alors, après, ça se complique très vite parce qu'ils vont trouver des populations intermédiaires et évoquer donc la possibilité d'une quatrième race, puis d'une cinquième, puis d'une sixième. Et plus le temps avance, plus on discute sur l'éventualité d'une sixième, d'une septième. Bon, ça montre un petit peu aussi les apories de cette science, hein, que les bases scientifiques étaient quand même extrêmement fragiles. Mais même si, au fil du temps, on s'aperçoit que malgré la multiplication des mensurations, des études, des recherches dans toute l'Europe, eh bien, on n'y voit pas toujours très clair. Quelques-uns parlent de désordre racial. En tous les cas, bon, on sent que les faiblesses de cette science. Mais en même temps, on continue les recherches et il y a quand même des affirmations assez consensuelles sur, par exemple, l'existence des races blanches, jaunes et noires, sur l'existence de ces trois races européennes, etc. Alors, ce qui me semble intéressant, voilà, c'est de se dire, bon, de voir comment ça s'est diffusé dans les autres espaces intellectuels, et de voir comment ça s'est diffusé finalement assez tardivement. C'est-à-dire que le grand moment de la science des races, donc de cette anthropométrie, c'est la fin du 19e. Puis au tournant du siècle, donc l'anthropométrie, elle commence, donc je viens de le dire, à montrer un peu ses limites. Mais en même temps, même si les plus grands savants, par exemple, prenons l'exemple de Paul Rivet. Paul Rivet, c'est celui qui a été directeur du Musée de l'Homme, un savant qui a fait ses premières armes à travers les recherches anthropométriques, puis ensuite s'est plutôt intéressé aux aspects culturels des populations. Et Rivet, directeur du Musée de l'Homme dans les années 1930, évoque ce grand moment, cette grande génération autour de Broca et toutes ses recherches et cet enthousiasme, et dit que maintenant, dans les années 30, eh bien, l'anthropométrie, elle a un peu déçu, hein, parce que malgré la multiplication des recherches, eh bien, on n'arrive pas à établir des frontières étanches entre les races, hein, à dire où la race blanche s'arrête, où commence la suivante. Et bon, donc il fait état des faiblesses, mais en même temps il dit qu'il faut que les recherches continuent, il faut qu'elles continuent. Et puis ces savants vont aussi assez vite voir dans les avancées scientifiques de leur époque des moyens de compléter cette science. C'est par exemple la découverte des groupes sanguins, donc en 1910. Tout de suite après la découverte de ces groupes sanguins, on va avoir l'idée de regarder ce qui se passe au sein de la diversité humaine et si on retrouve tel type de groupe plutôt dans telle population, dans telle race. Et voilà, donc on porte tout de suite beaucoup d'espoir sur cette nouvelle science, la sérologie. Et on va voir se multiplier dans les années 1920 beaucoup d'études sur, pendant la Première Guerre mondiale surtout, et puis ça va se prolonger un peu, en disant voilà, on a trouvé un autre critère, un critère complémentaire qui va nous aider à continuer à poursuivre cette entreprise classificatoire. En fait, assez vite, on va s'apercevoir que là aussi, il n'y a pas une coïncidence entre les groupes sanguins et les populations. Et puis, autre avancée scientifique dans laquelle on va fonder beaucoup d'espoir, c'est la découverte des gènes et des lois de Mendel donc, en 1900. Et des premières recherches génétiques, on cherche à comprendre comment se transmet la couleur des yeux. Et on va trouver donc, les bases génétiques de la transmission. Et donc on voit ces plus grands savants s'intéresser à la transmission des caractères physiques, mais aussi faire des études sur le caractère héréditaire de l'alcoolisme, de la paresse, de la prostitution, des études tout à fait savantes voilà, qui disent que la paresse est un caractère récessif, comme la couleur des yeux bleus, etc. Voilà donc pour l'aspect proprement scientifique, évolution de la science au début du XXe siècle. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment ces idées que chaque race est caractérisée par non seulement des caractères physiques, mais aussi des aptitudes intellectuelles, des caractères intellectuels ou moraux, eh bien, fait l'objet d'un consensus chez les intellectuels de l'époque. Alors on va commencer à employer d'autres termes, on va parler de psychologie des peuples. Ça, là on est dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et 30, ça va devenir une grande passion, un grand objet d'étude par les plus grands. J'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté à cette époque donc la revue des deux mondes. J'ai regardé les débats au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Et là, il y a une profusion de débats, d'articles et même d'ouvrages sur la psychologie des Anglais, sur l'âme russe, sur la psychologie des Italiens, etc. Tout le monde y passe. Et quand vous regardez qui signe ces articles, eh bien, ce sont les grands universitaires de l'époque, les professeurs des différentes universités françaises qui porte cette science et cette psychologie des peuples. Au fil du temps, ça va évoluer, mais on en trouve des traces assez, finalement assez récentes. On parle de caractère national, hein, comme si l'idée que voilà, chaque peuple avait des aptitudes, des caractéristiques spécifiques, et que ça se transmettait hein, de génération en génération. Voilà. Et là aussi, on trouve ce genre d'écrit sous les plus grandes plumes des intellectuels français. J'aime bien citer l'exemple d'André Siegfried, parce que je trouve que c'est assez intéressant. André Siegfried, c'est le fondateur d'une nouvelle science en France, qui s'appelle la science politique. C'est lui qui a créé la Fondation nationale des sciences politiques et qui est le grand père fondateur. Qui a été, en tous les cas, par les politistes, présenté comme le père fondateur jusque très récemment. Maintenant qu'on connaît un peu plus ses écrits en termes de psychologie raciale, évidemment, il est un peu moins mis en avant et un peu moins présentable. Mais en plus, il était donc aussi journaliste au sein du Figaro, donc il a beaucoup vulgarisé ses écrits et il a énormément écrit sur cette thématique de la psychologie des peuples. Donc on est dans les années 30, 40, jusqu'à la fin des années 50. Il enseigne à Sciences Po la psychologie des peuples. Donc ça veut dire que toute la géopolitique est vue en termes d'un affrontement entre les races, d'une compétition entre les races. Et l'obsession de ces années-là, c'est la grande peur, c'est la montée de la race jaune, donc André Siegfried et beaucoup d'autres, hein, je le cite, mais on peut trouver des écrits similaires chez d'autres intellectuels, chez d'autres hommes politiques, par exemple le ministre des colonies, Albert Sarraut. C'est la peur de cette race jaune. Ça commence donc en 1905, quand le Japon bat la Russie. On s'aperçoit qu'il y a un danger. Et puis, ça se manifeste aussi, surtout par les déplacements de population et l'immigration chinoise, japonaise, aux États-Unis, ou dans l'espace asiatique. Et voilà, c'est perçu comme une menace, hein, cette race jaune. Elle est prolifique, nous dit Siegfried. Elle est dynamique et elle s'étend. Hein, il y a des images de flux, de marées. Elle s'étend et elle menace la race blanche. C'est ça la grande peur. Aux États-Unis, elle menace la race blanche et Siegfried dit il faut limiter l'immigration, sinon c'est la race blanche qui est en péril. Il a des pages aussi assez savoureuses sur la race noire. Il consacre un ouvrage à l'Afrique du Sud. Et finalement, il trouve que l'apartheid, certes, c'est un peu difficile à tenir dans les années 1950, mais quand même, dit-il, c'était la solution, quoi, la séparation des races, parce que sinon, donc la menace de la race noire, là aussi, c'est une menace démographique, hein, une peur. Elle est présentée évidemment pas si... elle n'a pas les caractéristiques de la race jaune qui est présentée comme dynamique, intelligente, menaçante dans ce sens-là. Là, c'est surtout une menace démographique. Et André Siegfried a des pages assez terrifiantes sur l'incapacité intellectuelle de cette race noire. Il explique que certains individus, certes, peuvent s'élever. On en a la démonstration aux États-Unis. On a quand même des intellectuels d'origine africaine, nous dit-il. Mais voilà, ce sont presque des exceptions à la règle. Et la masse, elle, est condamnée à rester inférieure. Et voilà, donc des discours qui s'affirment chez des intellectuels de haut rang, tardivement, jusque dans les années 1950. Alors, un mot sur les usages politiques. Oui, ah ben voilà. Oui, ces usages politiques, on les a un petit peu déjà évoqués. On a vu, comme j'ai expliqué, donc comment certains intellectuels ont fait de la race la clé d'explication de l'évolution des sociétés. Finalement, voilà, donc le raisonnement est assez simpliste. Hein. Si la race blanche domine au XIXe siècle, c'est parce qu'elle avait des aptitudes supérieures. Elle a toujours dominé, la race noire a toujours été inférieure, et la race jaune, elle a eu ce moment de gloire, mais elle est tombée en décadence. Et voilà une vision géopolitique qui s'impose dès le XIXe siècle et qui continue très tardivement, puisqu'on la trouve encore sous la plume de Siegfried, comme je viens de le dire. Et puis, un autre usage politique très, très important, me semble-t-il, c'est que cette vision du monde, cette vision raciale du monde, a conforté, soutenu l'affirmation des identités nationales au XIXe siècle. Donc, j'en ai donné un aperçu en citant l'opposition entre les Celtes et les Anglo-Saxons. Et là, ça a été une thématique très, très présente. Dès le début du XIXe siècle, on commence à voir d'un côté le monde celte et le monde anglo-saxon. On le voit en France, c'est les historiens français qui en parlent, mais c'est pareil en Angleterre ou aux États-Unis. Sous toutes les grandes plumes de l'époque, des historiens de l'époque du XIXe siècle, on va parler en termes de race et notamment de cette race anglo-saxonne qui avait des aptitudes très... très, très valorisée, hein, qui était intelligente, qui était une des caractéristiques de la race anglo-saxonne, c'est qu'elle était démocratique par essence. Et ça remontait au temps des Saxons, parce que donc, ces anglo-saxons sont issus de ces tribus saxonnes, donc se rattachent à la race germanique. Et donc du temps des tribus saxons, donc à l'époque romaine, eh bien les Romains ont constaté qu'ils avaient déjà un sens inné de la démocratie puisqu'ils élisaient leur chef, et notamment leur roi. Et on va voir donc des affirmations dire que voilà, si l'Angleterre a inventé la démocratie, les institutions politiques démocratiques, c'est parce que c'est un héritage des temps saxons. Et on trouve ça sur les grandes plumes de l'époque, et notamment c'est une théorie que va reprendre Montesquieu. Voilà, alors voilà ce qu'on. Donc, le dynamisme de cette race qui est allée s'installer et créer un autre grand pays. Les États-Unis, qui est aussi un grand pays colonisateur, etc., ce dynamisme est exalté par les historiens, les philosophes anglais du XIXe siècle. Et on a le même phénomène aux États-Unis où on explique d'abord voilà, la domination de la race blanche sur la race noire, eh bien, ça permet de légitimer l'esclavage. Hein. On va voir ces théories, cette infériorité fondée sur l'anatomie, sur le cerveau, sur le crâne. On va voir ces théories scientifiques mobilisées pour dire, bien, vous voyez, c'est pas la peine d'éduquer la race noire, elle est vouée à l'infériorité, elle est vouée à l'esclavage, disent-ils donc dans les premières décennies du XIXe siècle. Autre usage politique aux États-Unis, c'est quand les États-Unis se lancent à la conquête du territoire, agrandissent leur territoire vers le sud, et là par exemple au Mexique, et pendant l'expansion au Mexique, là aussi on va mobiliser cette fois-ci donc la supériorité de la race anglo-saxonne sur les races latines qui sont notamment, les Mexicains sont affaiblis, la race mexicaine est affaiblie par les métissages qui ont eu lieu avec les Indiens. Voilà, donc une profusion d'explications, d'écrits qui légitiment ces entreprises de conquête, de domination. Un peu partout dans le monde, en Angleterre, c'est aussi mobilisé au moment de la conquête de l'Irlande, de la domination de l'Irlande, où on va là aussi jouer de l'opposition entre la supériorité des anglo-saxons et l'infériorité des celtes, puisque les populations irlandaises étaient être censées d'origine celte. Voilà, alors évidemment de l'autre côté, du côté des Celtes, on a au contraire en France une glorification de la race celtique, bien supérieure, donc exaltation du Gaulois, hein, le Gaulois se représentant de la race celtique. On a toute une profusion d'écrits sur des aptitudes innées du Gaulois qui était brave, courageux, intelligent, et qui a eu la grande chance aussi d'avoir la culture latine qui est venue se greffer là-dessus. Et on a voilà, une synthèse excellente entre les aptitudes du sang gaulois et la culture latine qui l'a bien réceptionné, puisqu'il était intelligent, ce Gaulois. Et ça aboutit à la brillante civilisation gallo-romaine et aux Français du XIXe siècle, donc, et on explique le grand avenir de la France par ses supériorités raciales. Voilà, donc en termes d'identité nationale, je ne cite pas, je ne m'étends pas sur l'exemple allemand, qui est évidemment l'exemple le plus, comment dire, abouti de ce délire racial, parce que c'est surtout celui qui a été le mieux connu, mais voilà, finalement il est presque trop connu parce qu'il a contribué à masquer qu'en dehors de l'Allemagne nazie, il y avait eu aussi des théories raciales qui avaient prospéré dans d'autres milieux politiques, notamment chez les Républicains. Alors la grande différence quand même, elle existe, on ne peut pas confondre ces théories raciales. Elles ont un point commun, c'est que toutes les théories nazies ou les théories républicaines, toutes elles affirment la supériorité de la race blanche. Par contre, la version républicaine de ces théories ne prône pas l'extermination des inférieurs, comme l'ont fait donc les nazis. Et deuxième différence, c'est que les nazis établissent une hiérarchie au sein de la race blanche en disant les Aryens ou les Nordiques sont supérieurs par rapport aux Alpins, aux brachycéphales et aux Méditerranéens. Et alors que dans la version républicaine, on n'a pas cette exaltation de la pureté d'une race ou de la supériorité d'une race. Certes, on dit, bon, les Celtes sont quand même mieux que les autres, mais on n'a pas, on dit en même temps que les mélanges entre les races européennes ont été bénéfiques. Vous voyez l'exemple de la France, on est des Alpins, on est formé de cette race celte, de cette race alpine, mais on a intégré des Nordiques, on a intégré des Méditerranéens, et tout cela, ça a été bénéfique, puisque le français du 19e siècle voilà, a des aptitudes et un grand avenir. Donc il n'y a pas dans la version républicaine une hiérarchie et au sein de la race blanche, et il n'y a pas une exaltation de la pureté raciale comme il y a eu chez les nazis. C'est la grande différence, et du coup, ça a une grande importance puisque ça n'aboutit pas à l'extermination et au délire d'extermination que ça a donné lieu chez les nazis. Mais par contre, ça conforte la politique de conquête coloniale de la République, hein, de la Troisième République. Ces races noires, elles sont inférieures. On voit les républicains. Dire mais les idéaux philosophiques d'égalité des hommes, etc., c'était dans la tête des philosophes du XVIIIe siècle qui ne sont pas allés à la rencontre des populations. Nous, on va à la rencontre des populations et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Eh bien que ces populations primitives, inférieures, elles sont incapables de mettre en valeur leur territoire, d'exploiter leurs richesses et qu'elles ont besoin de la race blanche. Voilà le discours des républicains. Finalement, c'est cette inégalité naturelle entre les races qui justifie la domination de la race blanche. Donc on voit l'inégalité des races, le thème de l'inégalité des races est affirmé sans que ça soit en contradiction avec les valeurs républicaines qui sont affirmées à l'époque. Voilà, bon, ben, je vais en rester là sur cet usage colonial qui a été évidemment qui a servi à justifier, à légitimer la conquête. Alors, ça va évoluer quand même, peut-être un dernier mot sur l'évolution, c'est-à-dire qu'au début de la période d'expansion coloniale, on est très pessimiste sur la capacité de ces races inférieures à évoluer. Hein. Et puis au fur et à mesure qu'on passe du temps et qu'on s'installe, là on se rend compte que quand on ouvre des écoles, les petits écoliers africains, ils apprennent aussi bien que les petits écoliers français. Donc on ne va plus parler d'infériorité irrémédiable, profonde, mais on va parler de retard, de différence. Donc c'est là qu'on passe d'une idéologie différentialiste où, donc dans les années 1930, on dit ils ne sont pas prêts encore à acquérir notre culture, à acquérir notre culture philosophique, politique, donc ils ne sont pas prêts à se gouverner tout seuls et ils ont encore besoin de l'aide de la race blanche. Voilà, bon, je m'arrête là pour qu'on puisse discuter ensemble.
C'était une mise en perspective nécessaire. Merci infiniment. Donc, y a-t-il des questions ?
Bonsoir, merci. Moi, j'avais une question à propos de, on va dire, les luttes qui pouvaient exister autour de voilà, la définition légitime de la discipline anthropologique. Parce que, bon, aux côtés de ce que vous nous avez présenté, sur la même époque, pardon, il y a quand même d'autres types de pratiques anthropologiques, hein, que ce soit Boas aux États-Unis, même bon, les textes de Mauss en France ne sont pas marqués par, par cette idéologie raciste. Hein. Je pense par exemple aux techniques du corps. Certes, les Français ne marchent pas comme les Anglais, etc., mais sans qu'il y ait voilà, une hiérarchisation derrière, ou même Malinowski, etc. Alors, est-ce que ces gens qui se réclamaient tous de la même bannière, l'anthropologie, mais qui n'y mettaient pas la même chose dedans, voilà, on se sont, est-ce qu'il y a eu des luttes autour de la définition que devait avoir la discipline ? Voilà. Merci.
Oui, c'est vrai que c'est bien d'y revenir parce que je n'ai pas eu le temps, en brassant mon tableau sur deux siècles à grands traits, je n'ai pas eu le temps de parler de ça et c'est vraiment déterminant. En fait, on va voir petit à petit cette science, cette anthropologie, donc au sens ancien, basée, comme je voulais décrire, s'affaiblir petit à petit. Dans les années 20, dans les années 30, il y aura plus guère, de moins en moins de recherches sur les mensurations. Ça passe un peu de mode. En tous les cas, la communauté scientifique rétrécit. Et puis, par contre, dans la lignée, donc, il faut quand même rappeler Durkheim, le fondateur de la sociologie, qui veut expliquer les phénomènes sociaux par des faits sociaux, hein, et non pas par la race. Donc, dans la lignée impulsée par Durkheim, eh bien, on va voir apparaître une autre anthropologie qui va s'appeler anthropologie sociale ou anthropologie culturelle. Donc, le grand formateur, ça va être Marcel Mauss, hein, qui va former des étudiants qui vont partir sur le terrain et construire une toute autre anthropologie, hein, donc qui s'intéresse avant tout à la culture plutôt qu'au phénomène physique, au corps humain, et puis surtout qui va se débarrasser de cette vision du monde hiérarchisante, etc. Et c'est là qu'a lieu, me semble-t-il, le grand changement dans cette génération d'anthropologues des années 1930 qui vont sur le terrain en se posant des questions différentes et en ayant une curiosité différentes qui va les amener à s'apercevoir que ces cultures qu'on a qualifiées pendant des décennies, des siècles de primitives, eh bien, elles ont une richesse, une complexité qui va les passionner et ça va donner aux premières véritables études. Voilà, donc en fait, ça naît à côté, hein, mais c'est pas en opposition. Ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, ces deux mondes sont pas en opposition. Marcel Mauss, même Durkheim, ils ne critiquent pas du tout les anthropologistes, on va les appeler comme ça, comme ils s'appelaient. Ils les critiquent pas du tout. Durkheim va s'en prendre à Vacher de la Pouge parce que Vacher de la Pouge il affirme la supériorité des Nordiques et ça personne en France n'est prêt à l'entendre, mais sur la science elle-même il est silencieux sur Topinard, Broca qui encore à son époque une importance réelle. Donc ça ne se construit pas en opposition. Marcel Mauss, il va garder dans ses méthodes la partie d'observation physique des corps aussi. Il y a toujours un intérêt pour la diversité physique des êtres humains qui reste. Alors vous avez raison de le dire, c'est débarrassé de la hiérarchie, etc. Mais en tous les cas, chez aucun de ces anthropologues, de ces nouveaux anthropologues, il y a un discrédit, un rejet de l'ancienne science. Soit on s'en inspire, il y a même des choses assez troublantes, comme un Durkheimien qui s'appelle Henri Hubert, qui est un proche de Durkheim, de Marcel Mauss, hein, qui va lui continuer à professer des idées de supériorité entre les races au sein de la revue sociologique. Quoi. Donc voilà, et en tous les cas, il y a encore des personnages intermédiaires entre les deux qui sont là. Donc il n'y a pas du tout d'opposition, de lutte.
Bonjour et merci pour tout, c'était vraiment très intéressant. J'ai une question qui va peut-être rapporter plus à quelque chose de contemporain, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, on ne trouve pas finalement des séquelles de cette science, à un niveau économique notamment, quand on parle par exemple de pays développés, de pays sous-développés ?
Oui, alors on peut dire que c'est... Il y a plusieurs choses qui subsistent. Moi, je pense qu'il subsiste un essentialisme qu'on retrouve encore très marqué, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui du culturalisme, Hein, c'est-à-dire qu'on, voilà, pour expliquer les choses, on se réfère à la culture. Et la culture, c'est comme si c'était quelque chose de profond, tellement ancré dans les populations, hein, que c'était inhérent à elles, alors que la culture, c'est quelque chose de dynamique, qui évolue. Hein, quand un immigrant malien vient s'installer en France, et sa culture évolue profondément, même s'il garde des... voilà, donc la culture, c'est toujours dynamique. Et dans ces explications culturalistes ou essentialistes, on a l'impression que voilà, les musulmans sont figés dans leur culture musulmane, enracinés depuis des siècles. Les Africains sont dans leur culture aussi spécifique, anti-rationnelle, etc. Donc je pense que c'est ce qui subsiste le plus, c'est ça. Et puis on peut dire que oui, l'idée de hiérarchie, elle est toujours présente, on peut difficilement s'en débarrasser, même si on ne parle plus de supériorité de la race blanche, il y a quand même voilà, toujours l'idée que le monde occidental domine pour certaines raisons. Et des explications toujours un peu simplistes, voilà, qui continuent à être présentes.
Et dans les manuels scolaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'on raconte à ce sujet ?
Alors les manuels scolaires, ils ont évolué aussi, c'est-à-dire que, mais si, assez souvent, il y a des personnes un peu âgées qui me disent, mais moi, mon manuel, il me parlait des différentes races, la race blanche, la race, avec la photo des quatre races, on parlait de la race rouge à cette époque. Voilà, donc dans les années 50, 60, jusqu'aux années 70, on a trouvé des manuels où on parlait des races. Alors certes, c'était plus la race blanche est supérieure et la race noire est inférieure. On ne trouvait plus l'affirmation de l'infériorité et de la supériorité, mais il y avait quand même une division entre races jusqu'aux années 80, quoi. Voilà. Et puis après, il y a eu le combat de... Ah oui, ce que j'ai oublié de signaler, c'est quand même le combat des généticiens. Les généticiens des populations qui, dans les années 80, ont lancé une grande offensive en disant « le concept de race, il n'a aucune validité scientifique, on n'en veut plus, nous on étudie la diversité physique des êtres humains, mais le concept de race, il est complètement obsolète ». Et donc des scientifiques comme André Langanet ou Albert Jacquard, qui étaient aussi des militants antiracistes, donc ils ont voulu dire non, la science ne soutient pas les idéologies racistes, la science est antiraciste, etc. Et qui ont fait basculer voilà, tout le monde, et notamment les manuels scolaires ont basculé aussi à ce moment-là. Par contre, je pense que dans les manuels scolaires, on trouve aussi toujours ce qu'on trouve dans les journaux d'aujourd'hui, quoi, c'est-à-dire ces explications culturalistes, cette idée de hiérarchie culturelle qui est encore très, très marquée.
Merci d'ailleurs pour cette présentation. Je me demandais, au niveau des théories au XIXe siècle, on remarque les théories l'opposition entre monogénisme et polygénisme. Est-ce que vous parlez quand même de théorie de race pour le monogénisme ?
Oui, oui, oui. En fait, les monogénistes, ils utilisaient la notion de race. Hein. Donc les polygénistes pensaient que, en fait, au moment de l'apparition de l'homme, voilà, il y avait une apparition simultanée de différentes races, alors que les monogénistes pensaient qu'il y avait donc une origine commune, mais qu'après il y avait un différentialisme racial qui était apparu sous différents facteurs comme le climat, la situation géographique des populations, et que ces différentes races voilà, s'étaient ensuite cristallisées, hein, et avait été doté de caractéristiques bien spécifiques, différentes des autres. Et voilà, les explications venaient surtout de l'influence du climat, hein, qui aurait déterminé. Mais là aussi, sous la grande plume des savants de l'époque, le climat avait été très présent. Je pense notamment à un autre personnage important comme Émile Boutmy, qui est moins connu aujourd'hui, mais qui à l'époque était un grand intellectuel qui a fondé l'école de sciences politiques, Sciences Po, et il a écrit plusieurs ouvrages pour expliquer comment le climat de l'Angleterre avait créé un tempérament anglais très différent du tempérament français.
Ok, vas-y.
On peut partager, je
pense. Ok. Merci pour cette présentation brillante. J'aimerais poser juste une question. Quelle est l'influence de Vaché-Lapouge sur l'Allemagne nazie dans le cadre de cette entreprise raciale?
Alors, Vaché-Lapouge, en France, il n'a pas eu d'influence parce qu'on lui a jamais pardonné de dire que les Nordiques étaient supérieurs aux Alpins et aux Celtes. Donc, en France, il n'a pas connu un grand succès. Il a été complètement marginalisé, mis à l'écart de la communauté scientifique. Et tout le monde, tous les grands anthropologistes disent leur désaccord avec ces thèses. Les Nordiques ne sont pas supérieurs. En revanche, eh bien, les nazis vont s'intéresser à ses écrits, vont le traduire et vont le présenter comme un précurseur, celui qui, le premier, a compris que la race germanique était supérieure aux autres races européennes. Donc sa gloire, elle va surtout être du côté de l'autre côté du Rhin. Voilà.
Moi, j'ai une question. Ce sera à propos des... non, c'est une remarque et une question. Alors, la remarque, c'est... par exemple, je considère que tous les peuples se considèrent eux-mêmes comme supérieurs aux autres. Par exemple, les Chinois se considèrent comme le peuple central. Les Japonais se considèrent comme le peuple dominant. Enfin, et les Indiens aussi, tous les peuples, même les Africains, chez eux, ils ont un espèce de c'est eux les mieux. Et il n'y a pas que les Européens qui ont ce comportement-là, je trouve. Enfin, moi, Et la question que j'étais, c'était sur comment ils étaient considérés, les Arabes, à cette époque-là, au 19e siècle. Comment ils étaient. Voilà.
D'accord. Alors sur la première, donc c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait que voilà de se considérer comme plus intéressant que les autres. Mais oui, ça se manifeste un peu partout, mais ça se manifeste quand même de manière différente. Hein. Plus ou moins, le caractère est plus ou moins affirmé quand même chez certains. Et le sentiment de supériorité, il a été extrêmement, extrêmement fort à la fin du 19e siècle, donc en Europe, persuadé que la civilisation, c'était la nôtre, la seule, la plus aboutie, la plus développée, et que tout le reste, c'était inférieur. Voilà, donc, on est toujours dans ce schéma-là, mais peut-être quand même beaucoup moins aujourd'hui. Donc il y a des évolutions aussi et des degrés à prendre en compte, à expliquer selon les contextes historiques. Voilà, sur la deuxième question, c'était... Ah oui. Ils font partie, en fait, ils font partie de la race blanche. Mais donc en général, quand on... Voilà, toutes les écrits sur l'Afrique du Nord... Quand, au moment de la conquête coloniale, les premiers géographes, les explorateurs, etc., les premiers administrateurs aussi, ont en général eu tendance à dire qu'ils ont une civilisation supérieure par rapport à celle des Noirs du sud du Sahara. Voilà, donc la hiérarchie se faisait comme ça. En revanche, sous la plume de Ronan, par exemple, les Arabes, c'est la race sémite. Donc au sein de la race blanche, il y a quand même une hiérarchie et voilà, les sémites sont en bas de la race blanche et les Aryens sont supérieurs ou les Européens sont supérieurs. Voilà, donc dans la classification hiérarchisante, ils sont, on peut dire, au bas de la race blanche, au-dessus des autres, des autres races. Mais ça a donné lieu à des controverses assez amusantes aujourd'hui, quoi. Les anthropologues, quand ils sont partis en Algérie, ils sont partis avec l'idée, en en tête donc qu'il y avait deux races qui dominaient en Algérie ou dans le Maghreb, les Berbères et les Arabes. Et à grands coups de mensuration, ils ont écrit des articles, des ouvrages très savants pour montrer les caractéristiques du berbère et de l'arabe. Alors, les caractéristiques physiques, mais aussi intellectuelles, morales, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'arabe, il est nomade, il se déplace tout le temps, il a une civilisation, il est instable, donc toutes des attributs négatifs pour l'arabe. Et par contre, le berbère, et notamment par exemple le kabyle, là, le kabyle, on le voyait très proche de l'Auvergnat. Hein, il était sédentaire, il était monogame, il n'était pas trop fanatique dans sa religion, c'était un brave paysan, enfin bref, voilà, on le rapprochait de l'Auvergnat. Donc il y a eu notamment Topinard, là, j'ai remis la photo, donnant des conseils aux politiques en disant pour réussir à s'implanter en Algérie, il faut s'appuyer sur les Berbères et non pas sur les Arabes, parce que les Arabes, on n'en fera jamais rien. Et voilà. Et donc, il a théorisé son opposition berbère-arabe. Et le spécimen qu'il a mis en avant comme étant berbère, dans la première édition de son livre, ça a donné lieu à plein de polémiques. Et finalement, il a fini par reconnaître que non, j'étais trompée, c'était finalement un spécimen arabe. Bon, et à la fin, lorsque les recherches se sont accumulées, on s'est dit que finalement, il n'y avait plus que des Arabes berbérisés et des Berbères arabisés, et que c'était un peu la même chose. Voilà, mais pendant un temps, il fallait fonder la politique coloniale sur le Berbère et rejeter l'Arabe.
Alors, au sujet, on a parlé de beaucoup d'oppositions, de théories différentes ou de calculs différents, même au niveau polygénisme, monogénisme. Et par exemple, pour la théorie de la dégénérescence due à l'environnement, je sais que les penseurs américains ont complètement rejeté cette théorie, parce que si elle était vraie, alors ils allaient régresser aussi. Mm-hmm. Parmi toutes ces oppositions et ces paradoxes entre les théories, est-ce qu'à un moment, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ces différences entre les théories ont remis en question la science des races? Ou est-ce qu'il défendait quand même la science des races, mais avec des idées différentes?
Non, je ne vois pas trop, parce que finalement, il y a des théories qui ont donné lieu à des grandes controverses, et puis finalement, c'est l'un des versants qui l'a emporté. Par exemple, entre les polygénistes et les monogénistes, finalement, c'est le monogénisme qui va l'emporter. Hein. Darwin va défendre le monogénisme, et finalement, les polygénistes vont être moins nombreux. Donc toutes ces controverses, non, elles discréditent pas la science, parce que chacun a sa vision raciale, applique sa vision raciale à ses théories monogénistes, etc., sans qu'il y ait de contradiction. Donc il y a finalement, on peut présenter ça comme des variantes de la science des races. Ce qui la discrédite le plus, c'est finalement les apories de la recherche en elle-même, c'est-à-dire le fait que on n'arrive pas à trouver les bons critères qui permettent de différencier. La couleur de peau, on n'y arrive pas parce que voilà, il y a plein de couleurs intermédiaires. Les mensurations, c'est un peu la même chose. Et c'est ce qui va non pas arrêter la science d'un coup, mais faire en fait que cette communauté scientifique décline, devient de plus en plus marginale, et qu'une nouvelle génération, dans les années 1950 et 60, 70, une nouvelle génération de scientifiques apparaît autour de la génétique des populations et aborde la question de la diversité sous un angle différent de celui de ses prédécesseurs.
Comment est appréhendé le métissage? Parce que vous dites qu'en France, on considère qu'en fait, on vient tous, on est métissés en quelque sorte. Mm-hmm. Mais le métissage tel qu'il existait, les mariages mixtes, etc., enfin, le vrai métissage, mm-hmm. comment il était perçu?
Oui, alors là aussi, le métissage a donné l'objet, il y a plein de variantes, hein. Mais il y a quand même deux grandes dominantes. D'abord, il faut distinguer quel type de métissage. Donc il y a le métissage, disait-il, entre les races proches. c'est-à-dire finalement au sein de la race blanche, entre les Nordiques, les Alpins et les Méditerranéens, au sein des grands ensembles raciaux, ils ont quasiment tout le temps été jugés comme bénéfiques, à part chez les nazis qui, eux, ont voulu rejeter les brachycéphales, les Alpins, les Méditerranéens, etc. Mais hormis chez les nazis, chez les autres, les autres communautés scientifiques, il y avait un consensus pour, entre les raceurs, c'est bénéfique. Donc ça veut dire, politiquement, on est d'accord avec l'immigration, à condition qu'elle vienne d'Europe. Hein, et les Belges, et nos voisins belges, les Polonais, etc., on en a besoin, et on est content de les avoir, et tout va bien. En revanche, vis-à-vis des races éloignées, exotiques, alors le vocabulaire était un petit peu, voilà, donc on parlait de races éloignées, de races exotiques, c'était plus du tout pareil, et ce qui l'a emporté, c'est plutôt la mixophobie, hein, la peur du mélange avec les races éloignées, parce que quand on est trop, voilà, c'était un schéma, un raisonnement assez simpliste, on est trop différent, on est trop éloigné physiquement, moralement. Finalement, ce type de raisonnement simpliste, il perdure encore, puisqu'aujourd'hui encore, hein, les hantises des mélanges, c'est toujours axé, on est différent, donc il vaut mieux rester séparés. Voilà, donc entre les races éloignées, trop différentes, là, on est beaucoup plus pessimiste. Mais il y avait quand même certains qui soutenaient que les mélanges entre l'inférieur et le supérieur pouvaient être intéressants parce que ça élevait la race inférieure. Par exemple, on expliquait au XIXe siècle, et même assez tardivement, que un métissage entre la race blanche et la race noire, eh bien, ça élevait la race noire parce que le mulâtre, l'intermédiaire, il avait des caractéristiques plus proches, supérieures, plus, donc intermédiaires, mais donc finalement supérieures par rapport aux caractéristiques de la race noire. Donc il y a eu quelques personnalités qui ont soutenu le métissage en disant « ben si, il faut quand même penser à améliorer les races inférieures ».
Voilà, bon, c'était une conférence passionnante et des auditeurs passionnants aussi. Merci beaucoup, Carole. Merci.